Good Morning Business, le grand entretien.
Et notre invité ce matin à 8h15, c'est Philippe Martin, économiste, doyen à Sciences Po, de l'école
d'affaires publiques.
D'affaires publiques, voilà.
Non, la mais plus grosse école de Sciences
président
Po.
Président du CAE jusqu'au 1er septembre. On a absolument besoin de vous ce matin parce que on doit choisir entre la peste et le choléra, entre l'inflation et le chômage. C'est ce que nous dit Jérôme Powell. Est-ce que le président de la Réserve fédérale américaine a raison de poser le choix en ces termes? Parce qu'on aimerait bien qu'il y ait une troisième voie, Philippe.
Il n'y en a pas beaucoup de troisième voie. Non.
Bon, et merci.
Jusqu'ici, c'est vrai que Powell disait pas qu'il y avait cet arbitrage difficile à faire entre inflation et chômage. Hein. Il y avait cette idée dont on se moquait aux États-Unis d'une immaculée désinflation, c'est-à-dire d'une désinflation qui pourrait se faire sans atterrissage brutal en termes d'emploi, de chômage. En fait, ça va être extrêmement difficile parce que si vous voulez faire baisser le taux d'inflation, aux États-Unis, il est à 9% hein, aujourd'hui. Ouais. L'inflation sous-jacente, elle est aussi assez élevée et trop élevée, bien au-dessus des 2% qui est la cible de la Fed. Il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie aux États-Unis, c'est l'énergie, c'est le prix du gaz, le prix, même si c'est moins qu'aux États-Unis, ça, on ne va pas y on peut pas y toucher directement.
Mais oui, justement, est-ce que c'est efficace pour lutter contre l'inflation? Parce que vous dites qu'elle est exogène et qu'elle vient du gaz russe.
Pas complètement. Aux États-Unis, il y a une partie de l'inflation qui il y a eu un effet de contagion hein, sur les services, sur l'industrie, etc. Donc, et puis il y a la question des anticipations d'inflation. Hein, c'est le troisième point. Hein, donc il y a l'aspect offre, les coûts, l'aspect demande, c'est le marché du travail justement, et puis les anticipations. C'est sur ces deux dernières composantes de l'inflation que la Fed peut avoir un impact. Et le deuxième, il est évident, il est douloureux. C'est-à-dire que c'est en ralentissant l'économie, en ralentissant le marché du travail, que vous allez avoir une baisse des salaires. Les salaires sont l'économie américaine, elle est encore en surchauffe. Mmh. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de la mettre moins en surchauffe. Alors, c'est vrai qu'il y a un arbitrage entre baisser le taux d'inflation et augmenter le chômage pour faire baisser la pression sur les salaires. Et c'est la peste et le choléra dont vous parlez. Sauf que on est dans une situation où le taux d'inflation est à 9% et le taux de chômage est en dessous de 4%. Donc c'est évident
donc, il y a de la marge de manœuvre. En fait.
Le mandat de la Fed, hein, je vous rappelle, c'est à la fois taux d'inflation vers les 2% et le taux de chômage le plus faible possible. Mais quand on est à 9% d'inflation et moins de 4% au chômage, on voit bien que l'arbitrage, ça va être de baisser le taux d'inflation en acceptant un taux de chômage plus élevé.
Jean-Marc Daniel disait ce matin, cette conférence, ces déclarations de Jérôme Powell, ça montre à quel point finalement il ne peut rien faire face à la situation actuelle. Est-ce que c'est aussi votre analyse?
Non, je suis en désaccord. Il fait des choses. Il a augmenté les taux de 0,75. Ils vont continuer à les augmenter.
Jean-Marc disait qu'il ne pouvait pas faire les deux en même temps parce que sa mission, c'est de faire baisser le chômage et de maîtriser l'inflation. Il dit, en fait, il est incapable de remplir la mission qui lui est confiée dans les statuts de la Réserve fédérale.
Il y a un arbitrage. Alors, c'est vrai que ça dépend du type de choc qui atteint l'économie. Là, c'est un choc d'offre, un choc de coût. Et donc, en effet, c'est le type même de situation très difficile où il va falloir faire un choix entre chômage et inflation, entre les deux mots. Et donc là, on est dans une telle situation d'écart qu'en effet, on est très très loin de la cible. On est à 9, alors que la cible, c'est 2. Donc en effet, il va falloir avoir une économie américaine qui est moins surchauffe et donc certainement moins d'emplois et plus de chômage.
Philippe Martin, est-ce que ce raisonnement que vous nous détaillez, donc vous approuvez finalement cet arbitrage powellien?
C'est pas que je l'approuve, c'est que je pense que à ce stade...
There is no alternative.
Non, c'est-à-dire que si, il y aurait une alternative, c'est de dire... Eh bien, on s'assoit sur l'objectif d'inflation parce que tout ce qui compte, c'est le chômage. Et certains économistes vont vous le dire.
Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on peut accepter l'inflation, vivre avec une inflation de 5%? Est-ce qu'on peut prendre ce risque, en fait?
On n'en est pas à 5%, on en est à 9% hein, aux États-Unis.
Oui, mais
on est bien
la BCE, c'est notre objectif, c'est 2%. Est-ce qu'on peut dire... est-ce que la société peut vivre avec l'inflation ou on n'est plus capable, en fait, de faire ça?
Alors, c'est un très bon débat. Je pense qu'il y a un débat aussi entre les économistes qui est est-ce que la cible d'inflation à 2% n'est pas trop faible? Et en particulier dans une situation de transition énergétique où on voit bien qu'il va y avoir plein de prix qui vont bouger énormément. Hein, on le voit en ce moment, évidemment, avec les prix d'énergie. Vous parliez tout à l'heure des éoliennes. Donc, il va y avoir des prix qui vont bouger beaucoup. quand on a besoin, justement, pour une longue phase de transition, que beaucoup de prix bougent, de prix relatifs, pour inciter, par exemple, à aller vers des énergies plus propres, etc., eh ben, peut-être qu'on a besoin, justement, d'un taux d'inflation qui ne soit pas à 2%. De toute façon, on ne va pas y revenir tout de suite. Ouais. Hein, donc, il va falloir s'habituer à un taux d'inflation au-delà de 2%. Moi, je considère que 2, 3 ou 4%, c'est pas dramatique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut pas, il faut que ce soit quand même ancré au sens où il faut pas que ça dérive au-delà de 5, 10. Enfin, le problème, c'est que c'est difficile de maintenir sur un taux d'inflation faible quand on est au-delà de 5, 6, 7%.
Allons au bout de cette logique, c'est-à-dire allons au bout de est-ce que l'inflation, dans cette période de transition, n'est pas nécessaire. Alors ça veut dire l'inflation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va spolier les créanciers, les rentiers, et on va se dire que ça va permettre d'effacer aussi l'immense création de dettes des dernières années. Et pourquoi pas? C'est un choix de société. Mais j'ai l'impression que dans la théorie économique, dans les dirigeants, personne ne veut faire ce choix-là. Pourquoi, selon vous?
Alors d'abord, il faut rappeler quand même que il y a une dimension juridique, c'est-à-dire c'est le mandat de la Banque Centrale Européenne d'obtenir 2% d'inflation. Donc même si les gouverneurs de la Banque Centrale voulaient de manière permanente avoir un taux d'inflation à 4 ou 5%,
ils ne peuvent plus.
Ils pourraient être attaqués en justice en disant mais non, votre cible qui vous a été donnée, c'est... Et on reproche souvent à la Banque Centrale de pas être démocratique, mais elle a un mandat qui lui a été donné par les politiques en Europe et elle fait de telle sorte qu'elle arrive à ce mandat. Et on voit bien quand même que même on pourrait lui reprocher d'être très loin des 2%. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on est à un taux d'inflation aujourd'hui en zone euro, on est pareil qu'aux États-Unis, à peu près à 9% pour revenir à 2%, alors que les prix de l'énergie ont augmenté de 30-40% en un an, ça voudrait dire une baisse très très forte de tous les autres prix. Si on voulait vraiment 2%, donc là, c'est une récession absolument atroce. Donc de toute façon, pour reconverger vers 2%, il va falloir du temps, peut-être de la chance au sens où les prix de l'énergie baisseraient pour des raisons géopolitiques. Enfin, il ne faut pas compter sur la chance. Et donc là aussi, en Europe aussi, je pense qu'on va avoir à faire cet arbitrage.
Bien. Mais est-ce que c'est seulement possible de faire évoluer le mandat de la Banque Centrale, de réécrire l'objectif d'inflation, ou c'est comme à l'ONU, de toute façon, il ne se passera rien?
C'est très difficile. Vous avez raison, ça va être très difficile parce que ça voudrait dire un changement du mandat, et donc il faut un accord de tous les gouvernements. Ouais. Donc en effet, c'est extrêmement difficile, et vous pouvez imaginer évidemment que par exemple les Allemands, qui sont très attachés à une culture d'inflation faible à 2%, seront très opposés à un tel changement de mandat.
Est-ce que le raisonnement que vous avez tenu en début d'émission, c'est-à-dire effectivement il n'y a pas d'autre choix pour faire baisser l'inflation que de s'attaquer à la croissance et donc d'accepter une hausse du chômage, est-ce que ça vaut pour l'Europe? Est-ce que c'est pas plus compliqué la situation européenne, parce qu'on n'est pas autant en surchauffe que les Américains?
Vous avez raison, mais ça signifie que dans une certaine mesure, la tâche est encore plus difficile en Europe, puisqu'une plus grosse partie de l'inflation ne vient pas de la surchauffe de l'économie ou potentiellement d'anticipation d'inflation qui ne sont plus ancrées. Elle vient vraiment du problème, on le sait, le prix du gaz, du pétrole, etc., sur lequel, en effet, la BCE n'aura aucun impact. Et donc, ce que ça signifie, c'est que l'arbitrage inflation-chômage est encore plus dur en Europe, puisque ça signifie que pour agir sur la partie qui vient de la demande, qui est plus faible en Europe qu'aux États-Unis, il va falloir encore plus réduire l'activité.
Dur, voire ça n'a plus rien à voir, en fait, inflation et chômage. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est décorrélé en Europe et que l'un n'a plus d'impact sur l'autre.
Alors, pas complètement, parce qu'une partie du choc énergétique... Évidemment, ça a un impact direct sur l'inflation, mais ça a aussi un impact sur l'activité économique. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que le choc énergétique, c'est en gros une perte de revenus pour l'Europe dans son ensemble de 3 points de PIB. Dont à peu près 2 absorbés par l'État. Mais jusqu'à quand? Évidemment, avec un coût budgétaire. Donc, de toute façon, c'est aussi un choc négatif de demande, au sens où le revenu des ménages diminue, et donc il y a une baisse de l'activité, de la demande, de la consommation, de l'investissement, qu'on le voit immédiatement. Donc, de manière un peu endogène, le choc de l'énergie en Europe aussi va faire réduire l'activité et donc la partie de la pression inflationniste, par exemple sur les salaires. Les salaires n'augmentent pas beaucoup en Europe.
On avait hier le PDG de Duralex, qui avait une jolie formule qui résume ce que vous dites. Il dit on est confronté à un confinement énergétique plus grave encore en termes d'impact sur l'économie que le confinement sanitaire du Covid ?
Je n'irai pas jusque-là, parce que quand même...
Lui, il ferme ses usines, il ne les a pas fermées pendant le Covid.
D'un point de vue microéconomique pour certaines entreprises, bien entendu, hein, je le vois. D'un point de vue macro, ce qui est peut-être plus mon point de vue, il faut se rappeler que pendant le Covid, il y a eu un trimestre où on avait moins 10, moins 15%. Hein, on n'en est pas du tout là. On est encore même d'ailleurs en croissance positive. Et d'ailleurs, la France est dans une situation plutôt un peu plus favorable. D'abord, on a un taux d'inflation un peu plus faible, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on gagne en compétitivité. Hein, par rapport aux autres pays de la zone euro. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que, par exemple, la décision de la Fed d'augmenter ses taux va faire, on l'a déjà vu, s'apprécier le dollar. Donc, une partie de l'inflation en Europe, c'est de l'inflation importée
avec le dollar.
Du fait que le dollar est cher. Et donc, ça va pousser la Banque Centrale Européenne elle va être obligée d'encore plus augmenter ses taux pour contrer cette inflation importée. Il y a un problème, d'ailleurs, de coordination entre les banques centrales, parce que vous voyez que chacun essaye d'exporter son inflation en augmentant ses taux d'intérêt, en appréciant sa devise. Mais c'est un jeu très peu coopératif.
Le seul avec qui ça marche, les Américains, comme d'habitude. Hein. C'est les plus forts dans ce jeu-là. Hein.
Oui, vous avez raison, parce que le dollar a un statut évidemment de devise complètement différente, mais c'est vrai que l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, ça va avoir un impact bien au-delà des États-Unis, non seulement parce que c'est un impact direct sur la croissance américaine, mais parce que tous les prix des actifs risqués vont diminuer, pays émergents. Donc il va y avoir des problèmes sur les dettes d'un certain nombre de pays émergents qui sont libellés en dollars.
Dernière question, comment vous voyez la France en 2023? On est encore un peu protégé, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent je vois les nuages, mais pour l'instant ça va aller pendant combien de temps?
Je ne peux pas vous le dire, parce que ça dépend en effet de beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue géopolitique. Ce qui est vrai, c'est que la stratégie macroéconomique du gouvernement coûte cher, c'est quand même, ça va être 50 milliards à peu près, donc c'est 2 points de PIB, donc ça veut dire qu'on va absorber 2/3 du choc en gros en France. Mais je trouve que c'est une stratégie qui pour le moment marche plus tôt.
Oui, c'est vrai.
La question, c'est de savoir si elle est tenable en termes budgétaires pendant longtemps. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'on fait... Moi, je pense qu'il faut davantage cibler les aides, ce qui aura du coup moins d'impact de baisser l'inflation, parce que quand vous faites des rabais, ça baisse le taux d'inflation. C'est une des raisons pour lesquelles on a un taux d'inflation plus faible que dans le reste de la zone euro. Mais je trouve que c'est une stratégie macroéconomique qui peut marcher si le choc n'est pas durable. Vous voyez bien que si c'est pendant 2-3 ans, on ne va pas pouvoir le faire.
Merci infiniment, Philippe Martin, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur la situation, ce fameux dilemme de la peste et du choléra dont on a beaucoup parlé ce matin et dont on parlera encore dans le débrief.